Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. C'est une nouvelle édition de l'heure du crime, émission préparée bien sûr par Perrine Suquet et Laure Broulard, de retour parmi nous. Avec plaisir, c'est Marc Bisset qui est aux commandes techniques de cette émission. Et à la une, on en parlait il y a quelques instants avec Vincent Parisot et Christelle Rebière juste avant les infos. C'est la véritable histoire d'Émile Buisson. On dit toujours la véritable histoire quand il y a un côté légendaire. Et c'est vrai que Émile Buisson, bon, fatalitas, il faut remettre tout ça dans le contexte de l'époque, hein, le début des années 50, l'immédiate après-guerre, l'ennemi public numéro un, tout simplement parce que c'était un spécialiste du braquage, du hold-up, des attaques de banque, un homme également très, très cruel, puisque il a été condamné et condamné à mort exécuté le 28 février 1956 pour 36 affaires différentes, 9 meurtres et autres tentatives et agressions. Et pour en parler, alors on est très content parce qu'on va avoir un document dans cette émission qui nous fait vraiment plaisir. Nous avons trouvé les coordonnées de Roger Bornich, le fameux inspecteur Bornich, celui qui a écrit Flick Story, pour raconter justement comment il avait arrêté Émile Buisson. Bah, vous l'entendrez lui-même raconter la fin de ce scénario, comment ça s'est vraiment passé dans ce restaurant près d'Évreux où il avait réquisitionné d'ailleurs sa fiancée de l'époque qui avait des menottes dans son sac à main. Enfin bon, on va parler de tout ça avec Roger Bornich. On va parler de tout ça aussi avec Christian Bornich, le fils de Roger Bornich, qui n'est pas policier mais qui est enquêteur privé. Donc vous voyez, on se refait pas. Il y a quand même une dynastie familiale. Et puis pour tout le contexte de cette criminalité très particulière, de ce criminel très particulier, et aussi de l'action de la police face à ce qui était quand même une véritable catastrophe, on va en parler avec l'historien de la police Charles Diaz, qui est près de moi. Bonjour Charles.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes, c'est vrai, un grand connaisseur de l'histoire de la police, c'est votre passion. Et puis, alors évidemment, vous n'avez pas écrit la fabuleuse histoire des grands voyous, mais la fabuleuse histoire des grands flics de légende, un livre qui est paru il y a quelques années aux éditions Jacob Duvernay. Et évidemment, dans ce livre, vous faites la part belle à la fois à Bornich, bien sûr, mais également au commissaire Chenevier, hein, qui est un personnage
qui est
central
patron,
dans cette
équipe qui mène l'enquête.
Alors, un mot quand même sur la personnalité de Buisson avant d'aller plus loin, parce que vous m'avez dit, c'est vraiment, c'était vraiment un méchant, quoi.
Ouais, cet homme. Buisson, il faut l'imaginer, pas du tout sous les traits de Trintignant, mais un homme petit, étriqué, le teint blême, et surtout des yeux enfoncés et d'une gris et d'une cruauté incroyable. Il a une enfance très très difficile, père alcoolique, mère aliénée, et il s'est battu dès son plus jeune âge pour survivre, et il va lui en rester une haine de l'humanité, ouais. Et puis alors une méfiance, il se méfie de tout.
Et donc il est très dur, hein, évidemment, à intercepter. Et quand on l'intercepte, il réussit à s'évader. On reviendra sur tout ça tout à l'heure.
Il s'est échappé de plusieurs pièges montés par la police. Et surtout, on sait qu'il n'hésitera pas à tirer.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, c'est un tueur. Et quand je parlais de sa cruauté tout à l'heure, l'histoire d'avoir chauffé vraiment les pieds de malheureux paysans, c'est vrai. Et quand je dis il a coupé la langue à un de ses complices qu'il accusait de l'avoir balancé, il l'a vraiment coupé avant de l'exécuter d'une balle dans la nuque. Hein. Donc on est quand même là, on n'est pas dans la légende du Robin des Bois, on est vraiment face à un voyou redoutable qui méritait bien son nom d'ennemi public numéro un. Alors, moi ce que je voudrais, c'est qu'on commence cette histoire par la fin, Charles Diaz. Ce fameux samedi du 10 juin 1950, il y a une opération de police qui se monte. J'aimerais que vous nous en donniez le contexte. À l'époque, il y a d'une part la préfecture de police de Paris, dont les compétences sont restreintes à Paris et à l'ancien département de la Seine.
Hein, c'est ça, département de la Petite Couronne d'aujourd'hui.
Voilà, et puis il y a la Sûreté Nationale qui a la compétence générale, hein, qui
sur toute la France,
partout en France. Voilà. Et il y a le commissaire Chenevier qui dirige la brigade de répression du banditisme. Voilà. Alors maintenant, quelle est la véritable histoire de ce montage policier pour intercepter Émile Buisson.
Depuis 1949, on sait que Buisson est plus ou moins solitaire, il monte des coups, mais en faisant appel ici et là à des voyous, et ensuite, il se retrouve seul, change d'appartement sans cesse, de ville sans cesse. Impossible de s'en approcher, les diverses tentatives ont échoué. Alors, et c'est là le coup de génie de Chenevier et de son équipe, puisqu'on parle de, naturellement de Roger Borniche.
Mais il y en a d'autres.
Il y a l'inspecteur Ours, il y a le commissaire Gillard. Et
que vous citez parce qu'ils vont être dans l'opération arrestation.
Et oui, tout à fait. Et alors, il faut monter quelque chose, il faut faire quelque chose. Alors, il décide de s'approcher d'un voyou qui est à Fresnes, qui est un ancien comédien d'ailleurs, et de lui mettre un marché en main. Marché qui, bon, on ne connaît pas tous les dessous, mais toujours est-il qu'il accepte de partir dans le milieu en disant « Je veux monter au braquage avec Buisson ». Et on lui fournit ce qui manque à Buisson, c'est-à-dire une voiture, un flingue et un endroit où se cacher. Et tout va être fourni par la police à cet indique qui lui va réussir.
C'est un piège.
Et ensuite, il faudra trouver le bon moment pour monter l'opération. Ouais. Et ce bon moment va être ce 10 juin 1950, où dans cette auberge qui accueille, avec l'accord du juge d'instruction, avec l'accord du taulier, tout le monde, il est là. Buisson, il est à demeure dans cette auberge.
C'est sa planque, quoi. Il a trouvé une planque magnifique grâce à son copain.
Il aide à aller sortir des radis, il aide à faire un peu la cuisine, etc. Il est chez lui. Ouais. Et surtout, il prépare, parce qu'il le croit, un braquage de la poste d'Évreux. Mmh. Et donc l'idée, c'est de rester à proximité d'Évreux, où ils vont faire leur prochain braquage.
D'accord.
Et donc voilà un petit peu l'ensemble.
Le contexte, ouais.
Voilà. Et en fait, ça va être une véritable pièce de théâtre que les policiers vont jouer à Buisson pour endormir sa méfiance et le capturer, surtout sans qu'aucun coup de feu ne soit tiré.
Voilà, parce que c'est un exploit, parce qu'on sait qu'il est, et d'ailleurs on va l'entendre tout à l'heure, je crois, dans la bouche même de Roger Borniche, il est armé, il a une grenade, et il a fait savoir que le flic qui l'arrêterait sauterait avec lui et avec la grenade. Hein, quand même. Donc, on est dans une affaire sérieuse. Voilà. Alors, on va faire une première pause. On va revenir après, beaucoup plus longuement, sur cette traque qui durait depuis très longtemps d'Émile Buisson. Mais après la pause, on va retrouver, à tout seigneur, tout honneur, Roger Borniche. Roger Borniche qui va fêter ses 96 ans dans quelques jours et qui a, au micro de Laure Broulard, raconté la fin de la pièce, c'est-à-dire l'arrestation d'Émile Buisson. Comment s'y est-il pris? Pourquoi était-il là avec sa femme? Vous allez avoir des réponses à ces questions dans un instant. Nous sommes donc le 10 juin 1950, à quelques kilomètres d'Évreux. Il y a cet hôtel-restaurant chez la mère Audu. La police, c'est le commissaire Chenevier, c'est Roger Borniche, ce sont les autres inspecteurs qui vont participer à l'opération, sont disposés tout autour de cet endroit, mais le commissaire Chenevier, il peut pas rentrer dans le restaurant, pour une raison très simple, c'est qu'il a déjà interrogé Émile Buisson, et on sait qu'il est extrêmement méfiant, et surtout qu'il a de la mémoire, donc si le commissaire Chenevier rentre dans le restaurant, c'est foutu. Il va donc rester à l'extérieur avec un autre inspecteur, inspecteur Ours. Et puis, qui va entrer dans le restaurant? Eh bien, un policier dont on parlera tout à l'heure avec Charles Diaz plus complètement, parce qu'il a joué un rôle important aussi, qui est là, à une table, isolé, seul, avec une petite valise à ses pieds, comme un représentant de commerce. Et puis, Roger Borniche et celle qui est sa fiancée, qui va bientôt devenir son épouse, pénètrent dans le restaurant comme deux personnes qui sont arrêtées pour l'étape et qui vont dîner à cet endroit. Où est Émile Buisson? Vous verrez, il n'est pas dans la salle de restaurant, il est plutôt dans l'arrière-cuisine, ce qui pose un problème supplémentaire à Roger Borniche. Écoutez comment il se souvient de cette scène au micro de Laure Broulard.
Nous sommes entrés dans la salle de restaurant, nous sommes installés à une table, ma femme en face de moi. Moi, c'était me dissimulant le plus possible du visage des yeux de Buisson. Gillard étant en passe, je ne pouvais rien voir. Nous avons commandé, on nous a servi à déjeuner, et mon épouse, grâce à la glace de son poudrier, voyait ce qui se passait derrière. Et à un moment, elle me dit, ça y est, le voilà, alors ne bougeons pas, parlons normalement. Elle dit, il s'assoit à la table, dans l'arrière-cuisine, avec l'hôtelier qui doit être le cuisinier. Nous déjeunons doucement, doucement. Et à un moment, ça ne pouvait pas durer, on ne pouvait pas rester des heures dans cette position. Et j'ai eu une idée. Je lui ai dit, madame, est-ce que vous avez le téléphone ici? Oui, monsieur. Ah bon, parce que je ne le vois pas dans la pièce. Non, non, il est dans la cuisine. Est-ce que je peux téléphoner? Mais bien sûr, monsieur. Quel numéro? Le 432 à Deauville. La patronne de l'auberge fait le numéro. Monsieur, vous m'avez bien dit le 432 à Deauville? Oui, bien sûr. Ben, ce numéro n'existe pas. Ça me fait un coup d'entendre ça, parce qu'immédiatement, Buisson, de son regard noir, me regarde, et je vois que sa main gauche part sous sa veste, car il était possesseur d'une grenade, et on savait qu'il avait juré de descendre le policier qui l'arrêterait avec cette grenade. Comment, il n'existe pas, mon numéro? Alors, c'est ma clinique, voyons, assistez. La femme refait le numéro, j'entends le rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr venez. Alors je me lève d'un bond, je passe la première porte. Allô, oui, j'entends, qui est à l'appareil? C'est le docteur Michelon. Ah oui, ah, bonjour docteur. Dites donc, j'aurais un peu de retard, vous savez, on a été retardé. Mais comment va la 18? La 18? Oui, la 18 et puis la 17. Oui. Alors, je continue à baratiner et à tromper tout le monde. Et puis, je raccroche, je reviens sur mes pas pour regagner le restaurant. Buisson a écouté la conversation. Il a la main à l'intérieur de sa veste, je sais pourquoi. J'arrive à côté de lui, mine de rien, je le regarde pas. Et d'un seul coup, mes bras l'encerclent, je le soulève. Et je lui dis, Mémile, tu es fait. Mon épouse sort de son sac à bas un sifflet, sonne les trois coups convenus, et au coup de sifflet, le commissaire Chilvier, qui était caché à 100 mètres de là dans un jardin, avec l'inspecteur Ours, arrive. Ma femme a sorti de son sac à bas une paire de menottes, et elle lui a ajusté les menottes. Ainsi, l'ennemi public numéro un, qui avait tant de meurtres et de méfaits à sa conscience, est arrêté, et on le ramène triomphalement à Paris.
Charles Diaz, extraordinaire récit. Alors, la petite histoire, mais là, je m'adresse à l'historien de la police, je ne sais pas si votre science va jusque-là, mais on n'a pas pu demander à Roger Borniche. Le 432 à Deauville, je crois que c'était le cimetière. Je crois qu'il avait eu le gardien du cimetière qui n'a jamais compris pourquoi un médecin lui demandait comment allait la chambre 18. Parce qu'il avait inventé le numéro, en fait.
Ouais,
c'est extraordinaire.
Oui, et puis tous les détails étaient prévus, parce que Roger Borniche ne le dit pas, mais par exemple, il est arrivé avec sa fiancée dans une Delahaye, c'est-à-dire une jolie voiture qui n'a rien à voir avec les voitures de police de l'époque.
Bien sûr, fallait tromper.
Parce que Buisson surveillait tout. Il regardait à l'extérieur à chaque fois. Et vraiment, ils ont très bien monté l'opération.
Alors, je crois que nous avons Christian Borniche en ligne. Bonjour, Christian Borniche.
Bonjour Monsieur Pradel.
Alors on vient d'entendre votre papa qui se souvenait pour nous de cette scène qu'il a dû vous raconter quand vous étiez petit
de nombreuses reprises,
non ?
Oui, j'ai eu effectivement la version par mon papa et par ma maman puisqu'elle était présente également.
Mais oui, absolument. Alors quand il raconte qu'elle sort de son sac à main le sifflet pour les trois coups, mais j'ai lu dans la presse, alors je parle sous votre contrôle, il paraît qu'elle avait aussi les menottes dans son sac.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, tout à fait. C'était une femme très courageuse qui, malheureusement, m'a quitté il y a très peu de temps.
Oui. Et vraiment, quand votre père raconte ça, on y est, quoi. Je veux dire, c'est à la fois une
pièce... Ah, mais tout à fait. Il a toujours les souvenirs de l'époque. C'est extraordinaire. Je l'ai vu il n'y a pas très longtemps. Et effectivement, quand il nous raconte ses arrestations, c'est absolument... C'est un film.
Oui. Et est-ce qu'il avait fait une affaire personnelle, lui, de l'arrestation de Buisson? C'était simplement son travail normal de policier du groupe pour lequel il travaillait?
Alors écoutez, moi j'avais 3 ans à l'époque, alors...
Oui, bien sûr.
Non, je me souviens pas très bien.
Non, mais je pense que vous avez dû en parler ensemble, c'est pour ça que je vous pose la question.
Oui, pense que c'était son travail habituel, parce que, lui chiffre, si mes souvenirs sont bons de mémoire, à peu près à 567 arrestations le nombre de truands qu'il a arrêtés.
Mais
l'avocat général Lyndon, au cours d'un procès à Paris, de Pierre Carreau, en juillet 1951, lui-même avait donné un chiffre, et là ce n'est pas un chiffre de mon père, c'est un chiffre de la justice, oui. Et il fixait à 500 arrestations le nombre de truands donc arrêtés par mon père, dont une centaine armée. Ah. Donc c'était, je pense, c'est un homme très courageux, hein, de toute façon.
Oui, oui, parce que là, on écoute ça avec un certain sourire, mais sur le moment, on sait qu'il y a quelqu'un qui a une grenade dans la poche, hein, comme il nous l'a précisé. Et puis, en fait, quand il rentre dans ce restaurant avec votre maman, c'est pas gagné, hein, parce que Buisson est dans l'arrière-cuisine. Comment faire ? Il a cette idée géniale qui n'était pas prévue dans le scénario initial, de demander à téléphoner parce qu'il a vu que le téléphone se trouvait dans la cuisine, quoi, en fait.
Voilà, tout à fait, exactement. Et c'est au retour qu'effectivement il a ceinturé Buisson. Oui, mais oui, tout à fait.
Ça vous a donné quelque part ce père exceptionnel, cette carrière incroyable. Puis il y a eu cette célébrité, évidemment. Il y a eu Flick Story, il y a eu le film avec Trintignant. Enfin, est-ce que ça vous a donné à un moment envie de travailler dans la police? Parce que, disons-le, vous êtes enquêteur privé. Hein, je ne sais plus comment.
Oui, je suis
comment
enquêteur, ça s'appelle, parce que, de droit privé.
Oui,
enquêteur de droit privé. De droit oui, privé, ouais.
Donc détective privé, comme on disait dans le temps, quoi. En
voilà,
fait,
hein, comme voilà, on disait autrefois.
Ouais. Oui, ça vous a donné
oui,
un
sûr,
peu...
Ça m'a, donné, ça m'a effectivement donné le goût de cette activité, mais il faut rappeler aussi qu'à la fin de sa carrière, mon papa, lorsqu'il a quitté la police, a créé un cabinet spécialisé dans la fraude aux assurances, un cabinet privé.
D'accord.
Et ouais. Au retour de l'armée, donc en 1969, je suis allé le rejoindre, et c'est lui qui m'a appris la
métier,
base
bah oui.
De la profession, ce qui n'est pas toujours facile d'ailleurs lorsqu'on travaille en famille.
Oui, c'est pas facile, mais on pouvait pas rêver meilleur professeur quand même, hein. Franchement.
C'est vrai. Et il m'a inculqué une déontologie que j'ai ensuite tenté de faire passer chez mes confrères, puisqu'il a souhaité... J'en suis très fier de mes parents, de ma maman et de mon père, qui est un homme extrêmement courageux. On peut apprécier ou ne pas apprécier la personnalité de quelqu'un, mais en tout cas, on ne peut en aucun cas méconnaître ni son talent de policier, ni son courage. Ça, c'est une évidence. Et effectivement, il m'a donné le goût de travailler dans l'enquête d'assurance que j'ai fait avec lui jusqu'à son départ pour les États-Unis. Et il m'a demandé dans les années 70 donc d'essayer de faire un petit peu de ménage dans la profession. C'est ce que j'ai tenté de faire et je crois que ma foi nous y sommes quand même parvenus. Pas seulement moi, évidemment, mais puisque maintenant la profession est agréée par l'État, elle a un statut, un code de déontologie, un organisme de régulation qui a été créé, deux diplômes universitaires délivrés par Paris 2. Voilà.
Eh bien, écoutez, on avait envie de vous entendre parler de ce père exceptionnel. Vous l'avez fait. Je vous remercie beaucoup, Christian Borniche. À l'occasion, d'ailleurs, hein, vous serez certainement notre invité un jour ou l'autre dans l'heure du crime. Il faudra qu'on se reparle, hein, hors
avec
antenne,
plaisir.
Pour que vous veniez nous raconter quelques-unes des belles affaires aussi, parce que pour les enquêteurs de droit privé, il y a aussi de belles affaires, de beaux souvenirs, et c'est parfois assez mouvementé, je le sais.
Tout à fait.
Merci beaucoup, Christian
Merci
Borniche.
Infiniment. Au revoir.
On va une pause tout de suite. On se retrouve ensuite avec Charles Diaz, donc historien de la police, pour revenir sur l'ensemble de la carrière, si j'ose dire, d'Émile Buisson. Et nous sommes de retour avec Charles Diaz dans l'histoire d'Émile Buisson, parce que on vous a raconté l'histoire en commençant par la fin. Il faut dire que ça fait longtemps que Émile Buisson narguait la police. Ça fait longtemps que un certain nombre de policiers s'étaient cassé les dents pour essayer de l'arrêter. Il a été arrêté à plusieurs reprises. Il a réussi à s'échapper avec des stratagèmes sur lesquels on va revenir, notamment en se faisant passer pour fou, hein, Charles Diaz. Bon, mais j'aimerais bien qu'on revienne là vraiment, alors pour le coup, sur le parcours, parce que vous me disiez hors micro, c'est un type qui a pas eu de chance de toute sa vie.
Ouais, ça commence très mal. Il naît dans une petite ville de Saône-et-Loire et
Paray-le-Monial, hein, c'est
ouais,
ça.
Ouais. Et avec son père, il fabrique des fours pour la boulangerie, mais il se met très vite à surtout boire.
Ouais.
Alcoolique complet, et sa mère malheureusement suit le même chemin, et en plus aliénée part pour un asile psychiatrique.
D'accord. Ouais.
Et
il est né en 1902.
Et quand il a 14 ans, il a déjà derrière lui une longue série de chapardages. Il a déjà derrière lui une quinzaine de jours en prison, parce qu'avec une complice, ils ont cambriolé une quincaillerie. Oui. Et surtout, c'est pendant ses premiers mois de prison qu'il va apprendre à lire et à écrire. On peut imaginer quand même ce gamin, ce qu'il a eu comme enfance. Bon, toujours est-il qu'il n'a confiance en personne, parce que et qu'il faut qu'il se débrouille pour survivre. Oui. Et on va s'apercevoir que c'est toute sa vie. Il faut survivre. C'est sa philosophie. Oui. Et surtout, il n'a confiance en personne. Et quand je dis en personne, c'est que c'est un électron libre qui ne fera jamais partie du milieu.
Alors, jamais. Justement, oui.
Et qui ne fera jamais partie, par exemple, de la Gestapo française, de la Carlingue, ou de la Gestapo tout court. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a toujours été en marge de tout. Parce qu'il n'a confiance en rien. Ouais.
Mais il fera peut-être partie d'un mouvement quand même secret. Je veux dire, pendant la guerre, on reviendra là-dessus avec le fameux commissaire Blément, qui avait monté une sorte de cellule d'anciens des services secrets pour aider les Alliés. Ouais. Hein, là.
Ouais. Alors, ce qui est certain, en revanche, c'est que il a une période un petit peu incroyable, parce qu'il part pour l'infanterie coloniale quand il a 20 ans, et là-bas, au Maroc, il fait le coup de feu contre le rebelle Abdelkrim. Et là, il va être décoré, blessé, pensionné et titulaire de ce qu'on appelle le corps de chasse, qui est une distinction pour les tireurs d'élite. Ouais. Donc, on comprend bien que c'est quand même quelqu'un qui a une arme à la main et particulièrement dangereux.
Alors, il y a peut-être quelqu'un, Charles Diaz, qui a joué un rôle très important dans la vie d'Émile Buisson et dans le côté banditisme. C'est son frère Jean-Baptiste, je ne sais plus comment on le surnommait, j'avais ça quelque part. Oui, Lenus, N-U-2-S, ouais. Parce que lui, en fait, il était plus âgé que...
Oui,
que...
ils ont quelques années d'écart, je crois 7 ans d'écart.
Ouais. Il avait déjà une bande de voyous à un moment... Ouais. Et il a embauché son frère.
C'est lui qui lui fait faire ses premières armes dans le braquage. Mm-hmm. C'est lui aussi qui l'entraîne qu'Émile fasse son service militaire. C'est lui qui l'entraîne à Shanghai. Parce qu'il a une idée, c'est ouvrir une boîte, le Fantasio, à Shanghai.
On est dans les années 20,
en 30, 30, oui, 30, 30 ouais, dans les, ouais. au début des années 30. Ouais. Et là, ils veulent faire beaucoup d'argent. Ouais. Et ils partent là-bas. Ouais. Cette boîte qui fait à la fois la prostitution,
bordel,
le jeu. Imaginez Macao, le Fantasio. Ouais. Et malheureusement, et c'est pour ça que je dis, il n'a jamais de chance, ce Buisson, parce que c'est Buisson, d'ailleurs. Ouais. Parce que là, ils se mettent dans une histoire de trafic de faux dollars, et ils se font escroquer par la pègre locale.
D'accord.
Et ils se retrouvent ruinés au bout de 3 ans d'activité.
Ouais. Après avoir tâté un peu du trafic d'opium aussi, c'est vraiment, c'est leur vie, quoi. Voilà. Ils sont de ce côté-là de la ligne jaune, quoi.
Tout à fait.
Alors, donc, il rentre en France,
en 1934, il rentre en France et il n'a rien. Il faut recommencer tout. Alors, il recommence par ce qu'il sait faire, c'est-à-dire monter au braquage. Et là, il est arrêté pour de divers vols, cambriolages, et là, il rencontre Desgrandchamps, qui, lui, va lui proposer de braquer un hôtel de la Poste à Troyes. Donc, il se prépare pour faire ce braquage à Troyes. Malheureusement, parce que c'est toujours comme ça avec Buisson, ils sont dénoncés, ils sont arrêtés en flagrant délit, et ils se retrouvent enfermés à la prison de Troyes.
D'accord.
Donc, échec complet. Mmh. Et à la prison de Troyes, là, il est condamné, c'est lourd, puisqu'il se retrouve quand même avec une condamnation pour plusieurs années, et la chance va lui sourire, parce que 1940, la pagaille. Mais quand de la pagaille. Et il profite de cette pagaille de l'Exode
pour s'évader.
S'évader. Ouais. Et donc, le voilà dehors. Mm-hmm. Et en 1942, il commet avec Abel Danos, qui surnommait le mammouth, et qui s'est évadé avec lui de Troyes, ils commettent le premier hold-up de l'occupation. Rue Notre-Dame des Victoires, ils attaquent des convoyeurs de fonds et ils s'emparent de 3 millions de francs, qui est une fortune à l'époque. Et c'est donc le premier hold-up commis sous l'occupation, et absolument pas commis pour des raisons liées à la résistance ou autre chose.
Bien sûr, c'est ça.
C'est vraiment du pur banditisme.
Profite de la situation à l'époque.
Abel Danos, une fois son argent mangé, va rejoindre la Gestapo française. En revanche, lui, il s'en va dans le sud de la France pour prendre du bon temps. Mmh. Là, il rencontre une prostituée qui va être sans doute son seul amour. Elle s'appelle Henriette, on l'appelle la petite main. Pas parce qu'elle pratique des choses un peu particulières, non, simplement parce qu'elle a une main atrophiée comme l'empereur Guillaume II. Et malheureusement, cette jeune femme va mourir de tuberculose en 45. Mmh. Et donc voilà, la seule histoire d'amour connue d'Émile Buisson.
Entre-temps, en 1941, il a braqué une autre entreprise et il a tué un convoyeur de fonds, ce qui évidemment le rend à partir de là passible de la peine de mort, hein, quand même. Alors on fait une pause et puis on va continuer à parler de ce personnage très antipathique, mais très exceptionnel, il faut bien le dire aussi, hein, dans le banditisme. Et puis, vous nous direz pourquoi, ça c'est l'historien qui parle, alors que tout le monde pense qu'à la Libération, il a fait partie du gang des tractions avant, vous dites catégoriquement, c'est faux. Eh bien, on va en parler. Une émission consacrée à Émile Buisson, ennemi public numéro un. Je crois que le commissaire Chenevier, dont on va reparler tout à l'heure, avait donné une interview après l'arrestation à un journaliste américain qui, je crois, était un des consommateurs le jour de l'arrestation qu'on a évoqué tout à l'heure. Et il lui aurait dit « j'ai arrêté le Al Capone français ». Enfin bon. Alors, on revient là sur un point d'histoire, s'il vous plaît, Charles Diaz, parce que à peu près dans tout ce qu'on a pu consulter sur Internet et sur d'autres sources, des articles de presse, on dit, mais il est devenu le lieutenant de Loutrel, Pierre Loutrel, dit Pierrot le Fou, et il a été dans l'un de ceux qui ont animé ce fameux gang des tractions avant, auquel nous avions d'ailleurs consacré une émission ensemble.
Ah oui. Ben non, ouais. Non, il y a un petit problème, c'est que Émile Buisson, entre 1943 et 1947, est en prison. Mmh. Il est en prison parce qu'il s'est fait arrêter en passant la ligne de démarcation dans le métro, dans le train. Il y a un contrôle, ouais. Et il va pour sortir son ticket de sa poche et il fait tomber une balle.
Oui.
Bon, les Allemands qui étaient autour l'embarquent. Ouais, il est emprisonné à Clairvaux et là il écope des travaux forcés à perpétuité. Ouais. Et en 46, il se fait passer pour fou, ouais. Sans doute utilisant des choses qu'il a vu faire à sa maman.
Oui, bien sûr.
Et il n'arrête pas de dire ça monte, ça fait mal. Enfin, il répète ça comme des mantras.
Et les médecins décident d'aller le mettre en observation à Villejuif.
Tout à fait.
Il y a un centre
hospitalier pour les aliénés non dangereux.
Ouais.
Et là, avec deux autres simulateurs, il fait le mur. Ouais. Son frère l'attend de l'autre côté du mur en question.
Le fameux Jean-Baptiste.
Voilà. Mmh. Et une semaine après, ils font déjà leur premier hold-up ensemble. Donc, mais le gang des tractions avant, Pierre Loutrel, Bouche Sèche, ouais. Attia, etc., ouais. C'est 45-46. Ouais. Donc, ce n'est pas la même bande.
Même s'il a connu le fameux René Lacanne,
Abel Danos, le mammouth, ouais. Qui est une des figures du gang des tractions avant. Ouais. Alors, juste pour l'anecdote, Buisson disait que il se rasait toujours parce qu'on remarque pas un homme rasé dans la rue, oui. Qu'il mettait toujours un imperméable parce qu'on remarque pas un homme à un imperméable dans la rue, oui. Et que surtout il ne prenait jamais une traction avant parce que si vous prenez une traction avant, les flics croient que vous êtes un voyou et les voyous croient que vous êtes un flic.
Oui, donc de toute façon, dans les deux cas, c'est pas bon, surtout quand on passe sa vie à échapper quand même à la police. Ouais. Alors, il faut commencer à parler de ça. La police, à l'époque, parce que il est, comme on dit, connu des services de police, ouais. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon.
Et c'est la grande époque de la guerre des polices, parce qu'entre la Sûreté nationale et la préfecture de police, chacune ayant développé des structures de lutte contre le banditisme, hein, d'un côté les fameux GRB, groupes de répression du banditisme, oui. De l'autre, au Quai des Orfèvres, il y a en plus de la brigade de voie publique, une brigade anti-agression qui est rattachée à la brigade criminelle à l'époque, parce qu'il y a des braquages partout. Oui. C'est un nombre faramineux. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément d'armes en circulation. Mmh. La France est quand même dans une pagaille qui est après-guerre.
On parle de l'immédiate après-guerre.
Oui. Et puis troisièmement, il y a eu beaucoup de relations étranges pendant cette occupation. Et donc, les voyous ont constitué beaucoup de réseaux. Ils ont beaucoup de gens qui leur donnent des tuyaux. Ouais. Et c'est avec des tuyaux qu'on fait de bons braquages.
Ouais. Alors les tuyaux, oui, mais on peut rester un peu là-dessus, parce que c'est vrai qu'il y a un certain nombre de voyous qui vont passer du côté des Allemands, hein, avec tout ce qui se met à la fameuse Bonny Lafont et les autres. Il y en a d'autres qui vont, je crois que c'était le cas de Joatia, en tout cas,
Qui vont... Non, c'est une particularité. Joatia va travailler pour
Les deux.
Pour les... Non, il va travailler pour les uns et il va être envoyé en camp de concentration par les autres. D'accord. On veut le supprimer de la circulation, en quelque sorte, en l'envoyant effectivement à Tausen, où il a été d'un comportement exemplaire, il faut le dire.
Bien sûr. Et donc, en fait, ceux qui avaient choisi, on va dire, le bon côté de la barrière, vont avoir, sinon des protections, tout au moins, une certaine compréhension. Comment on peut appeler ça
Des complicités, on va dire, en tout cas de la connivence ou de l'indulgence parfois. Oui. Enfin, tout. Mmh. Et surtout, ce qui se passe dans cette France d'après-guerre, c'est que les dispositifs, la police a été fragilisée par la période de l'épuration, fragilisée par la période de l'occupation avant. Et on voit que ce sont des services assez désorganisés. Mmh. Et en plus, la nouvelle loi Marthe Richard fait que l'emprise
qu'ils avaient, des maisons closes,
voilà, l'emprise qu'ils avaient sur les maisons de prostitution, ils l'ont un peu perdue. Et donc, les informations sont moins importantes qu'avant. Mmh. Tout cela fait qu'un personnage comme Buisson, qui est en marge de tout, en marge de la pègre, en marge de ses réseaux, etc.
Ça, c'est difficile pour les enquêteurs.
C'est très, très difficile. Et en plus, il a une particularité qui ressemble beaucoup aux méthodes d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'il n'a pas de gang constitué. Mmh. Il fait appel à des voyous suivant les besoins. D'accord. Il a une info. Il veut monter au braquage, il a besoin de 3 personnes, il va les recruter et ensuite, soit les tuer d'ailleurs, parce que malheureusement, il faut le dire, il liquide facilement dès lors qu'il n'a plus confiance. Par exemple, en septembre 47, ils font un braquage dans une auberge. Ils volent tout, des bijoux, de l'argent, le tiroir-caisse, etc. Au partage, juste après, il s'aperçoit que l'un de ses complices, qui s'appelle Henri Russac, a détourné un clip. Il ne dit rien. Simplement, il fait comme dans Le Parrain. La dernière scène du Parrain, il dit on va faire un repérage pour un cambriolage de nuit. Ils partent en voiture, lui est monté à l'arrière. Il dit tiens arrête-toi 2 minutes là. Oui. Il s'arrête et là il lui met une balle dans la nuque. Il l'assassine comme ça. Oui. Et il est comme ça. Il est cruel, froid et il n'a aucune espèce de il ne développe aucune espèce d'amitié, d'affection, d'empathie pour les autres. On le dit cruel, mais surtout, il a une haine des autres qui est incroyable.
Alors, on va faire une pause, la dernière de l'émission, et on va se retrouver tout de suite après. À la fois, on va revenir maintenant sur le scénario de l'arrestation par Borniche et par Chenevier et par les autres, parce qu'il y a eu des tas de versions différentes. Il y a eu même des conférences de presse. Le ministre de l'Intérieur s'est exprimé. Et on peut le dire, quoi. Il a menti comme un arracheur de dents à l'époque. Mais on va vous raconter pourquoi. Et puis, on va réentendre dans un document RTL de 1971, Roger Borniche, qu'on avait en direct tout à l'heure. Mais là, on va l'entendre réagir sur un sujet très, très précis qu'on va évoquer ensemble. C'est parfois cette porosité entre les malfrats et les policiers qui sont chargés de les arrêter. Tout ça, évidemment, sur fond d'indiques, d'argent. Les policiers, évidemment, essayant de mettre en confiance des voyous pour mieux les arrêter après. Seulement, où est la ligne jaune ? C'est une question qui est toujours d'actualité. Alors nous allons, avec mon invité Charles Diaz, revenir sur ce scénario imaginé par ces policiers qui veulent absolument mettre la main sur Émile Buisson. Vous me disiez qu'il était malin à un point qu'on a découvert plus tard, qui se mettait en embuscade pas loin du 36 quai des Orfèvres. Mais pourquoi faire ?
Il s'installait à la terrasse d'une brasserie qui s'appelait la brasserie Périgourdine. Et puis là, il repérait les voitures qui sortaient du 36.
Quel genre de voiture les policiers avaient ? Mieux les repérer s'il était suivi.
Exactement, exactement. Et par exemple, dans l'affaire, dans l'arrestation, là, si le couple, si Roger Borniche était arrivé avec une voiture de type police, il aurait été repéré immédiatement.
Immédiatement, en fait.
D'où l'utilisation d'une Delahaye qui était... pas du tout le genre que pouvait se payer la police de l'époque.
Alors nous, on a ici dans cette émission, il y a des gens qui ont des livres de chevet. Nous, on a un bloc de chevet. C'est le bloc de votre confrère Moréas, Georges Moréas, ancien de l'Antigang, qui a créé l'Antigang de Nice, etc. Et qui, parlant de Roger Borniche, et j'ai noté la phrase, il évoque évidemment les 567 arrestations, et il dit « Il subsiste le souvenir d'un flic brillant aux méthodes marginale et à l'efficacité redoutable. Et c'est exactement ce qu'on est en train de dire.
Exactement, hein, parce que le montage de cette opération pour arrêter Émile Buisson, elle est en marge de tout. Il faut bien comprendre qu'on va donner les moyens à un voyou d'avoir une voiture, d'avoir une arme à feu et d'avoir en plus un projet de braquage. Donc, et en plus, une planque.
Alors, voilà, toute chose, évidemment, qui ne peut pas se dire par un ministre de l'Intérieur dans une conférence de presse, vous l'avez compris. On va en reparler dans un instant de toutes ces versions qu'on a livrées après à la presse pour expliquer comment on avait réussi à arrêter l'ennemi public numéro un. Mais on va réentendre la voix de Roger Borniche, enregistrée en 1971 pour une émission d'RTL. Il faut un petit mot d'explication. En 1971, en janvier, je crois, il y a un livre qui paraît et qui fait vraiment du bruit, s'appelle Les Corrompus. L'auteur s'appelle Jean Montaldo et il accuse nommément le commissaire Charles Javillier, patron de la brigade anti-gang de Lyon, par exemple, d'avoir protégé des truands lyonnais pendant un certain temps, parce que après, ça lui permettait évidemment de mieux les arrêter. C'est à peu près la description de ce qui se passe là, dans cette opération-là. Et sur RTL, François Ponchelet, donc journaliste à la rédaction, va enquêter un peu sur ces relations un peu ambiguës entre les policiers et les gangsters, va se demander où se situe la frontière avec la corruption. Autrement dit, il se pose la question de savoir jusqu'où des policiers peuvent aller dans leurs relations avec des membres de l'APEC pour obtenir leur confiance. Une question à laquelle, à l'époque, il demande de répondre à Roger Borniche. Écoutez sa réponse.
Bien sûr, il y a quelques erreurs, il y a des erreurs qui sont commises, mais regardez, moi, quand j'ai arrêté Émile Buisson, j'ai fourni, par l'intermédiaire de mon informateur, une voiture à Émile Buisson. Et puis, comme Buisson exigeait d'avoir une arme, j'ai fourni à Buisson une arme avec des balles. Ce qui fait que pendant le trajet entre Paris et Évreux, puisque nous l'avons arrêté à Claville, à quelques kilomètres d'Évreux, la voiture 202 que j'avais louée à mon nom et l'arme que j'avais volontairement fournie auraient pu, en cas d'interpellation par les gendarmes, amener mon inculpation pour complicité éventuellement d'assassinat.
Voilà, donc il a raison. Alors que dit la version quand même, parce qu'il y a une histoire dans l'histoire. Vous avez évoqué la guerre des polices. On parlait de la préfecture de police de Paris qui avait compétence sur Paris et le département de la Seine, et puis la sûreté qui avait compétence nationale. Et il faut pas oublier que Chenevier, donc le commissaire Chenevier, lui, c'est la sûreté.
C'est la sûreté nationale. Oui. Et donc au début, pour ne pas dire où a eu lieu l'interpellation, on situe ça en Haute-Normandie.
On parle des trois obus, le café des trois obus. Alors, la porte de Saint-Cloud, quand même.
Voilà, non, c'est après.
Parce que ça, c'était le vrai pied de nez.
C'est après. Oui, parce qu'au début, on parle en Haute-Normandie. Bon. Ensuite, on sait que c'est pas vrai. On comprend vite que ça ne s'est rien passé là-bas. Oui. Et donc, la police, la préfecture de police dit, voilà ce qui s'est passé, en fait. Il a été arrêté chez nous, mais sous notre nez. Et normalement, cette arrestation, c'est nous qui aurions dû la faire. Donc, ça monte. Et en fait, c'est totalement faux. Ouais. Mais parce que dans cette affaire, encore une fois, dès le début, ça part quand même sur une sorte d'ambiguïté, mensonge, etc., caché, avec l'accord du juge d'instruction d'Agneau, il faut bien le dire.
Oui, mais les policiers avaient demandé l'accord du juge pour monter l'opération au cas où, justement, il y aurait eu un dérapage.
Voilà.
Quoi.
Et donc, le problème, c'est qu'une fois l'arrestation faite, si vous commencez à donner des détails, cette ambiguïté, c'est très dangereux. Ouais. Et donc, il a fallu un tour de force, il a fallu que les uns et les autres mentent un peu, ensuite qu'on commence à dire un peu la vérité, et c'est seulement à partir de 1967-1968.
Bah c'est Borniche qui va le raconter dans Flip Story, non ?
Ça sort déjà un peu avant. Ça sort déjà un petit peu avant. Mmh. Et je dirais vers 67-68, on commence à avoir des éléments. Donc je rentre dans la police à la fin des années 70. Oui. Et je travaille avec des collègues commissaires ou inspecteurs de l'OCRB qui, eux, ont connu ces personnes-là et ont m'ont raconté toute cette histoire-là. Et donc, j'avais pris beaucoup de notes à l'époque et je redécouvre aujourd'hui que ce qu'il m'avait raconté est tout à fait juste.
Pour le jeune flic que vous étiez, c'est ma dernière question, à l'époque, que représentait quelqu'un comme Borniche
Borniche, d'abord, il avait, à travers Flic Story, créé quelque chose de très fort, qui était le duel entre un grand flic et un grand voyou. Et quelque part, c'est l'héroïcisation des policiers. Et donc, il a porté beaucoup pour, dans la police, pour le rapprochement,
l'image positive de la police. Population.
Donc c'était très fort de ce point de vue-là. Ouais. En plus, il faut bien le dire, le film Flic Story était une grande réussite. Bien donc sûr, non, puis bon, il y avait toute l'époque de l'après-guerre avec tous ces dangereux bandits, avec et c'était très fort, oui. Donc ça a marqué notre génération.
Et on retrouve un certain nombre de ces grands flics dans votre livre, La fabuleuse histoire des grands flics de légende. Merci beaucoup, Charles Diaz. Voilà, l'émission est maintenant terminée. On va pas mettre Flavie Flamand en garde à vue. Hein. Ça se fait pas, non. Surtout la radio, hein, quand même. On va la retrouver dans un instant.